Midi et demi en temps universel, il est 13h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi sur RFI. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Une cérémonie était organisée ce matin à N'Djamena pour marquer officiellement la fin de la présence militaire française au Tchad. Nous ne rompons pas notre relation avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération, déclare Mahamat Idriss Déby. On apprend au même moment que des drones HTV à la Turquie vont s'installer sur la base de Faya Larjo dans le nord du Tchad. On revient sur les nouvelles orientations stratégiques de N'Djamena avec Charles Bouessel, analyste à l'International Crisis Group. Il est notre invité. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo, elle est au menu d'un sommet extraordinaire de la SADC cet après-midi au Zimbabwe. Les leaders de l'organisation de l'Afrique australe doivent discuter de l'avenir de leur mission déployée au Nord Kivu. Ce matin, le ministre français des Affaires étrangères était par ailleurs à Kigali, où il s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame. Il avait rencontré hier Félix Tshisekedi à Kinshasa. Et puis les sports du football, un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale malgache, c'est l'ancien international français Corentin Martins qui prend la tête des Baréas. Au Tchad, une cérémonie célébrée ce matin la fin de la présence militaire française dans le pays. Deux mois après la rupture des accords de défense, elle était organisée, cette cérémonie, sur la piste de l'aéroport de la base d'Adjikossey, d'où est parti hier le dernier avion français. Le président Mahamat Idriss Déby, des représentants de toute la classe politique et le corps diplomatique étaient sur place. Reportage Victor Moria.
Tout au long de son discours, le chef de l'État tchadien a mis l'accent sur la souveraineté, désormais, dit-il, pleinement retrouvée de son pays.
La souveraineté n'a jamais été un cadeau. Elle est une conquête, le fruit de luttes, de sacrifices et d'un engagement constant. Nos ancêtres ont combattu pour nous offrir cette liberté, pour que nous puissions vivre dans une nation indépendante, fière et respectée.
Face à l'ensemble des hauts personnages de l'État, des institutions régaliennes aux membres du Conseil national de transition, Mahamat Idriss Déby assure que le Tchad restera ouvert au dialogue avec la France.
En reprenant le contrôle total de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays, nous ne rompons pas nos relations avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération.
Comme un symbole de l'unité nationale voulu par les autorités pour l'occasion, les deux leaders de l'opposition, Albert Pahimi Padaké et Succé Masra, ont assisté à la cérémonie. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
L'armée française s'en va. Et au même moment, Franck Alexandre, on apprend que des drones turcs vont s'installer sur la base de Faya Larjo.
Oui, avec des personnels turcs qui effectivement sont déjà présents dans l'ancienne base française de Faya Larjo et qui pourraient bientôt l'être, Nicolas Abéché. Mais attention, ça n'est pas une présence militaire au sens propre. Ce sont plutôt des techniciens, des spécialistes chargés de mettre en œuvre les drones aériens Bayraktar acquis par le Tchad. Bayraktar, vous le savez, a vendu de nombreux drones de moyenne altitude, longue endurance en Afrique, des drones destinés à la surveillance des territoires, mais qui peuvent aussi être armés. Les personnels déployés à Faya Larjo sont donc des pilotes de drones ou encore des employés de Bayraktar, entreprise dont le PDG, il faut le souligner, est un proche du président Erdogan.
La Turquie, partenaire de plus en plus privilégié par les armées africaines.
Oui, car la nature a horreur du vide et la Turquie, qui a de grandes ambitions en Afrique, s'impose dans de nombreux pays avec une véritable maestria. La force d'Ankara est de proposer des offres tout compris all inclusive, des matériels militaires avec ses entreprises très concurrentielles comme Bayraktar pour les drones ou Autocar pour les véhicules blindés, des financements, des formations mais aussi des débouchés aériennes. Ces dernières années, Turkish Airlines a par exemple ouvert des dizaines de destinations vers l'Afrique. L'offre est séduisante et ne vient pas heurter le désir de souveraineté qui souffle en Afrique car en aucun cas la Turquie n'y déploie des troupes. Une influence, un soft power réussi en somme, notamment dans le très stratégique Tchad. Ankara l'a bien compris, car qui est au Tchad, Nicolas, peut rayonner dans l'ensemble de l'Afrique.
La crise dans l'est de la République démocratique du Congo, au menu d'un sommet extraordinaire de la SADC cet après-midi à Harare, au Zimbabwe. Le président congolais Félix Tshisekedi doit y participer par visioconférence. Alexandra Branjon, vous êtes en direct de Kinshasa. Les leaders de l'organisation de l'Afrique australe doivent discuter de l'avenir de la force militaire qu'ils ont déployée au Nord Kivu.
Oui, les discussions devraient notamment porter sur l'avenir de cette mission de la SADC en RDC, la SAMI DRC, déployée pour appuyer les forces armées congolaises dans l'est du pays. Faut-il retirer cette force de plusieurs milliers d'hommes? Faut-il la renforcer? Les membres de la SADC sont partagés sur le sujet, notamment l'Afrique du Sud, le plus gros contributeur de soldats sur le terrain, qui a perdu 13 hommes ces derniers jours dans les combats avec les rebelles du M23 autour de Goma. Le Malawi, rappelons-le, a également perdu 3 soldats. Alors, selon la presse sud-africaine, il semblerait que Pretoria pousse pour un cessez-le-feu suivi d'un retrait progressif de cette force de la SADC. Rappelons, des tensions ont éclaté cette semaine entre Pretoria et Kigali, le président rwandais accusant cette mission de la SADC de ne pas être une force de maintien de la paix. Alors, côté congolais, on indique que pour que le président Félix Tshisekedi a lui prévu d'exposer la situation humanitaire catastrophique sur le terrain, les dizaines de milliers de déplacés, les corps dans les rues de Goma, le manque de nourriture dans la capitale du Nord Kivu. Selon une source proche de la présidence, Kinshasa souhaite que la SADC condamne la présence des troupes rwandaises sur le terrain et que l'organisation régionale exige du Rwanda qu'il retire ses militaires du territoire congolais.
Alexandra Branjon en direct de Kinshasa. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lui, est au Rwanda. Le chef de la diplomatie française est arrivé hier à Kigali, après une première étape en République démocratique du Congo. Il a rencontré ce matin Amélie Tulé, le président Paul Kagame.
Et il n'a fait aucune déclaration, aucun commentaire à l'issue de cet entretien. Seuls éléments de langage de la diplomatie française. Je cite, cet échange s'inscrit en plein soutien des processus de médiation régionaux de Luanda et Nairobi. Avant cette visite, les services du ministre français des Affaires étrangères, cités par l'agence France-Presse, avaient annoncé que Jean-Noël Barrot demanderait à Paul Kagame le retrait des troupes rwandaises de l'est de la République démocratique du Congo.
À Paris, l'Élysée dit suivre, je cite, avec une extrême attention, une extrême préoccupation, l'offensive du M23 avec l'appui des forces rwandaises, d'abord sur Goma, offensive qui se poursuit, dit l'Élysée, plus au sud, dans le sud Kivu.
Et Emmanuel Macron multiplie les échanges hier soir à nouveau au téléphone avec le président congolais Félix Tshisekedi. Il reste aussi en lien avec le président Kagame, assure-t-on à l'Élysée. Le président français avait aussi déjà parlé à ses homologues du Kenya, de l'Afrique du Sud et du Congo-Brazzaville. Il a depuis également appelé l'Angolais João Lourenço, le Burundais Evariste Ndayishimiye et l'Ougandais Yoweri Museveni. L'Élysée assure qu'il y a un consensus général sur la nécessité de parvenir à faire cesser les hostilités préalables à la reprise du dialogue. Et au niveau des instances internationales, Union européenne, Nations unies, l'Élysée affirme qu'il y a une convergence pour hausser le ton et les pressions sur à la fois le M23, le Rwanda et aussi, je cite, les acteurs congolais qui sont dans une logique de prise du pouvoir. On a vu plusieurs prises de parole récentes dans cette logique et nous ne pouvons pas l'accepter, dit l'Élysée.
Sur place à Goma, depuis l'entrée du M23 et de soldats rwandais, les hôpitaux font état de plus de 1000 blessés civils dans les combats des derniers jours. Des blessures par balles et par éclats d'obus. Les hôpitaux de la capitale provinciale du Nord Kivu sont submergés, Alexis Guilleux.
Dans les couloirs de l'hôpital Il Africa, dans le centre-ville de Goma, des hommes et des femmes sont étendus sur des lits ou des matelas, même le sol. Nathalie Siro a été blessée mardi lors des combats.
Nous étions assis à 4 personnes en train de voir comment se déroule la guerre. Mais d'un coup, il y a une bombe qui a éclaté chez le voisin et nous avons été atteints par les éclats, tous. Moi, ça m'a atteint au niveau du bras et ça a fracturé l'humérus. Le papa là qui était au niveau de l'abdomen est décédé hier, malheureusement. Mais nous avons survécu.
Espérance Nsimiré souffre encore depuis sa blessure lundi dans sa propre maison.
On m'a tiré dessus chez moi, dans ma maison. Mon bras a été touché et c'est pour cela qu'on me soigne. Je me sens très mal. Dans mon corps, il y a encore une balle dans ma poitrine. On m'a dit que l'hôpital n'est pas en mesure d'enlever la balle.
Le personnel soignant n'a pas été épargné par le conflit à Goma, comme en témoigne ce médecin qui a souhaité rester anonyme.
Les agents ont été touchés de nos chauffeurs pendant qu'ils allaient secourir, ont été victimes de tirs croisés.
L'hôpital Il Africa accueille 560 blessés, la plupart ont reçu des balles ou des éclats d'obus. 25 personnes ont succombé à leurs blessures depuis le début de la semaine.
Au Mali, la ville de Léré, à une 60aine de kilomètres de la frontière mauritanienne, toujours sous blocus djihadiste. Cela dure depuis 2 mois. Le Jnim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, avait décrété un embargo sur cette localité de 26 000 habitants de la région de Tombouctou. La ville est surtout habituellement un important lieu de passage pour les voyageurs et les commerçants. Mais donc depuis 2 mois, David Bachet, le calvaire des habitants se poursuit.
Aucun camion de marchandises, aucun car de transport ne passe. Selon plusieurs ressortissants de l'Héré et notabilités de la région de Tombouctou, le blocus demeure total. Une vidéo transmise à RFI montre des rues quasi désertes, de nombreuses boutiques fermées. Il n'y a pas de riz, pas de viande, pas d'huile, pas de pâtes, déplore celui qui filme. Il n'y a rien. Les populations se nourrissent grâce à des stocks de certains commerçants et dans une moindre mesure à la contrebande qui permettrait de faire passer quelques marchandises d'Algérie et de Mauritanie en payant les djihadistes du Jnim, ce qui n'empêche pas une raréfaction des produits et une explosion des prix.
Par ailleurs, l'armée malienne, David, n'a jamais approvisionné la ville.
C'est ce que déplorent plusieurs sources. Lors du blocus très médiatisé de Farabougou, 2 mois après le coup d'état militaire d'août 2020, l'armée avait mis en scène le transport de denrées alimentaires par hélicoptère avant de mener une opération dite de libération. Assimi Goïta, à l'époque colonel et vice-président de la transition, s'était personnellement affiché devant les caméras. Sollicité par RFI sur ce blocus de l'Héré, ni l'armée malienne ni le gouvernorat de Tombouctou n'ont donné suite. Ils ne se sont jamais adressés aux populations sur le sujet, confirme plusieurs sources qui dénoncent une omerta et un aveu d'impuissance. L'Héré se trouve sur une route habituellement empruntée pour relier Bamako et Tombouctou via Niono. La capitale régionale demeure cependant bien approvisionnée grâce à des voies de contournement. Les marchandises peuvent être acheminées par camion jusqu'à Mopti, puis par Pinas sur le fleuve jusqu'à Tombouctou. La route reliant Tombouctou à Douenza puis au sud du Mali reste également pratiquée.
Au Mali, toujours dans la région de Koulikoro, un éboulement survenu dans une mine artisanale a fait plusieurs victimes selon le gouvernorat. Des femmes majoritairement, pas de bilan plus précis encore de sources officielles. Les recherches se poursuivent, mais des sources locales disent craindre plusieurs dizaines de morts. Et puis au chapitre social, 5e jour de grève aujourd'hui pour les enseignants-chercheurs du Mali. Ils réclament le versement de leur prime de recherche. Le mouvement perturbe très fortement les universités et grandes écoles du pays. Aucune réaction de la part du gouvernement de transition. Une attitude jugée méprisante par les syndicats à l'origine du mouvement. Le mouvement doit se poursuivre dans l'enseignement supérieur jusqu'à demain, samedi inclus. 13h43 à Bamako.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, au Kenya, l'inspecteur général de la police et le directeur des affaires criminelles entendu par la justice hier dans une affaire de disparition. 3 hommes portés disparus mi-décembre dans le pays. Les corps de deux d'entre eux ont été retrouvés hier. Des pêcheurs portés disparus au sud de Madagascar, retrouvés vivants. Madagascar qui a un nouveau sélectionneur, l'ancien international français Corentin Martins, prend la tête de l'équipe nationale de football. Au Kenya, l'inspecteur général de la police et le directeur des affaires criminelles entendu par la justice hier à Nairobi. Douglas Kanja et Amin Mohamed Ibrahim ont été convoqués dans l'affaire dite des disparus de Mlolongo. 3 hommes qui s'étaient volatilisés mi-décembre après leur arrestation par des hommes armés. Les corps de 2 d'entre eux ont été retrouvés hier, Gaël Alex.
Les corps des 2 victimes ont été identifiés à la morgue de Nairobi. D'après la famille de la première, sa dépouille a été retrouvée dans la rivière Rouaï, à l'est de la capitale, le lendemain de son arrestation. Transportée à Nairobi, ce n'est qu'après analyse scientifique qu'elle a pu être identifiée, explique un communiqué de la direction des affaires criminelles publié dans la soirée. Les circonstances de la découverte de la 2e dépouille restent encore floues. Quelques minutes plus tôt, Amin Mohamed Ibrahim, directeur des affaires criminelles, assurait pourtant au tribunal n'avoir aucune idée du sort des disparus de Mlolongo. L'enquête suit son cours, poursuit l'inspecteur général de la police Douglas Kanja, qui assure que le peuple kényan est en sécurité. Les 2 officiers jurent qu'ils ne savent rien, alors même que des analyses sont effectuées sur des corps. S'indigne Faisal Odhiambo, présidente de l'association kényane du droit. Soit ils ne se parlent pas, soit ils ne contrôlent rien, soit ils mentent, conclut-elle. Avant de se présenter hier, les patrons de la police et des affaires criminelles avaient fait faux bond à la cour 4 fois. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
À Madagascar, on redoutait des centaines de morts depuis le début de la semaine après la disparition de pirogues qui avaient pris la mer dans des conditions météo extrêmement difficiles. Les recherches se poursuivent, mais les dernières nouvelles sont plutôt encourageantes. Guilhem Fabry, on vous retrouve en direct d'Antananarive. Les autorités viennent d'annoncer que la plupart des pêcheurs portés disparus ont été retrouvés sains et saufs.
Oui, 11 pirogues manquent encore à l'appel selon le dernier bilan publié il y a 2 heures par le gouverneur de la région de Landjroul qui ne précise pas le nombre de personnes toujours portées disparues, mais dans le même temps, il a annoncé que 424 pêcheurs ont été retrouvés sains et saufs. La plupart d'entre eux avaient pris la mer mardi, ils se sont perdus avant d'échouer parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de leur point de départ. Une enquête minutieuse réalisée dans près de 200 localités a permis à la fois de recenser les disparus auprès des familles et de retrouver les pêcheurs perdus loin de leur village. En début de semaine, les vents violents et la forte houle avaient conduit Météo Madagascar à déclencher une alerte rouge dans les 3 régions de l'extrême sud de la grande île, Landjroul, Latimo-Ndrefane et Lanos. Autrement dit, il était fortement déconseillé de prendre la mer. Tous les signaux étaient au rouge, selon le ministre de la Pêche et de l'Économie Bleue, Paubert Mahatante, mais les pêcheurs sont quand même partis à cause de la faim, a-t-il expliqué. Jamais des disparitions en mer d'une telle ampleur n'avaient été recensées dans cette région, selon un responsable de la société civile locale.
Guilhem Fabry, correspondant de RFI à Antananarive. On reste à Madagascar où l'équipe nationale de football a un nouvel entraîneur. C'est l'ancien international français Corentin Martins, 56 ans, qui aura la lourde tâche de relancer une sélection en difficulté depuis 2019. Cette année-là, les Baréas avaient connu leur heure de gloire en se qualifiant pour les quarts de finale de la CAN, Sarah Tetto.
Les autorités footballistiques du pays voient en Corentin da Silva Martins le Messi qui saura, espère-t-elle, remettre sur pied une équipe nationale à la dérive depuis son incroyable épopée jusqu'au quart de finale de la CAN en 2019. Aussi, hier, lors de la présentation du nouvel entraîneur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marcin Abdoulah Mustapha, n'a pas caché son enthousiasme.
Aujourd'hui, je pense que l'équipe nationale malgache a besoin d'une restructuration. Il y a besoin d'un coach avec votre expertise, avec votre talent. Nous pensons que nous avons trouvé la bonne personne et nous comptons sur vous, monsieur le coach. En route pour la Coupe du Monde 2026.
Pas le temps de traîner donc. Corentin da Silva Martins a 1 an pour accomplir des exploits. Un objectif qui paraît, avoue-t-il face à la presse, inimaginable, mais pour lequel il s'engage à se battre.
Le calendrier de la préparation est assez simple. On agit par des dates FIFA. On aura 8 jours pour préparer ces 2 matchs contre le Centrafrique et contre le Ghana. Donc je vais bien sûr commencer à partir d'aujourd'hui à tâcher à appeler les joueurs. Et bien sûr que j'observerai les joueurs locaux. Maintenant, il faut savoir que pour pouvoir être compétitif dans des matchs de haut niveau, il faut pouvoir aussi jouer des matchs de compétition chaque semaine.
Et c'est là où le bât blesse. Aujourd'hui, le championnat malgache peine à s'organiser. Entre une qualification à la Coupe du Monde et une réorganisation du foot malgache, beaucoup d'espoir et d'attente pèsent aujourd'hui sur les épaules du nouveau sélectionneur. Sarah Tetto, Antananarive, RFI.
Il est 15h48 à Antananarive. 13h48 à Paris, Anne Cantner, les grands titres de ce vendredi 31 janvier.
Un nouvel échange prévu entre Israël et le Hamas. 90 détenus devraient sortir des prisons israéliennes selon une ONG palestinienne et 3 otages sont censés quitter Gaza samedi. Parmi eux, le franco-israélien Ofer Calderon ainsi qu'un américano-israélien et un israélien. Au Liban, malgré le cessez-le-feu, une frappe israélienne a fait 2 morts la nuit dernière dans l'Est. Israël dit avoir visé des cibles du Hezbollah. Le Premier ministre hongrois menace de bloquer la prochaine reconduction des sanctions de l'Union européenne contre la Russie si Bruxelles ne contribue pas à la reprise du transport du gaz russe via l'Ukraine. Transport interrompu le 1er janvier dernier. Un premier pas vers un budget pour l'année 2025 en France. Les députés et les sénateurs qui composent la commission mixte paritaire sont tombés d'accord. Ils ont aussi décidé de baisser les crédits prévus pour l'aide médicale d'État qui sert à soigner les immigrés en situation irrégulière. Moins 111 millions d'euros sur un budget d'un peu plus d'un milliard. Et puis du foot, le tirage au sort de la Ligue des Champions et une affiche digne d'une finale pour les 8e. Manchester United, Real Madrid. Le PSG jouera contre un autre club français, Brest. Le Bayern contre le Celtic Glasgow. La Juventus contre Eindhoven. Toutes les rencontres dans nos journaux des sports et dans Radio Foot à 16h10, temps universel. Pour leur retour à l'actualité africaine, après la rétrocession à l'armée tchadienne de la dernière base militaire française au Tchad, une cérémonie était organisée ce matin à N'Djamena pour ce retrait historique. Charles Boissel, analyste à l'International Crisis Group, en charge de la Centrafrique et du Tchad, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Charles Boissel.
Bonjour.
Nous ne rompons pas notre relation avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération, déclare Mahamat Deby. La fermeture de la base ne signifie absolument pas la fin de la coopération militaire avec le Tchad, disait au contraire ce matin sur notre antenne le porte-parole du Quai d'Orsay. Qu'en est-il de cette coopération militaire France-Tchad, définitivement terminée ou pas ?
Alors la coopération militaire, on peut dire que pour l'instant, à ce stade, oui, elle est terminée, mais il ne s'agit pas d'un divorce violent comme ceux qui ont pu intervenir entre la France et les pays de l'AES, par exemple, et qui avaient été suivis de tensions diplomatiques fortes entre ces pays. Mais c'est quand même, oui, comme vous le dites, une page de l'histoire qui se tourne, et il faut ajouter que les récentes déclarations du président Macron lors de son discours devant les ambassadeurs le 6 janvier dernier avait provoqué l'agacement des autorités tchadiennes notamment. Le président français avait notamment dit que les dirigeants sahéliens avaient oublié de lui dire merci pour les interventions militaires françaises au Sahel. Et donc ce genre de déclarations n'ont pas aidé à maintenir un climat d'apaisement. Le Tchad, comme d'autres pays de la région, ont sans doute perçu ces déclarations comme méprisantes, à rebours de ce qui était attendu de la France, c'est-à-dire qu'elle se comporte comme un partenaire normal.
C'est-à-dire que la coopération militaire est momentanément terminée, mais elle pourrait reprendre, selon vous ?
La possibilité de nouvelles coopérations militaires semble peu probable dans un futur proche, parce que le président tchadien a fait du départ des forces françaises un point fort de sa gouvernance. Cette mesure alimente la narration d'un Tchad qui reprend sa souveraineté en main. Et cette mesure a été très populaire et il est probable que le président tchadien continue de vanter cette mesure. Pour le reste, par contre, la France développe toujours une aide publique au développement. La coopération économique et la coopération culturelle sont maintenues, donc il ne s'agit pas d'un divorce total avec le Tchad.
Des drones turcs achetés par le Tchad vont s'installer sur la base de Faya-Largeau. Apprend-on dans quel objectif, selon vous ?
Eh bien, c'est peut-être un début de remplacement des accords de défense avec la France. Parce que les accords de défense avec la France s'incarnaient beaucoup dans la couverture aérienne de la France au Tchad, donc notamment avec les avions de chasse français et les drones. Et on voit donc avec le partenariat avec la Turquie le développement des drones turcs au Tchad qui ont sans doute l'ambition de remplacer en partie la couverture aérienne qu'assurait la France au Tchad, même si la puissance de feu d'un avion de chasse est bien supérieure à celle d'un drone. Un avion de chasse peut frapper plusieurs fois, il peut frapper des cibles en mouvement et l'avion a un aspect dissuasif que n'a pas forcément le drone.
Et aussi pour remplacer le renseignement aérien que l'armée française fournissait.
Oui, exactement. Oui, l'appui-feu et puis le renseignement aérien que l'armée française assurait, effectivement.
Est-ce que le Tchad envisage d'autres partenariats militaires ?
Le Tchad développe plusieurs partenariats, donc avec, comme on l'a dit, la Turquie, la Hongrie, mais aussi les Émirats arabes unis. Donc c'est sans doute un des partenariats les plus significatifs, notamment en termes financiers, avec donc des prêts très importants, mais également une coopération économique et une livraison de matériel militaire. Ce qu'on peut dire, c'est que le Tchad semble ouvert à tous les partenariats pour l'instant, même si on peine à voir se décider une stratégie claire derrière.
Et les relations avec la Russie, des compagnies privées russes, pourraient-elles venir au Tchad ?
Alors, c'est un sujet qui est sur la table depuis quelques mois. Il y a eu des visites officielles en 2024 entre la Russie et le Tchad et un réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays. Des relations qui ont été à un moment empoisonnées par la présence de Wagner en Centrafrique voisine, mais les relations entre les deux pays se sont réchauffées, mais pour l'instant, à part quelques éléments, ce rapprochement ne s'est pas concrétisé par une arrivée de paramilitaires russes sur le territoire tchadien, et donc il est peut-être trop tôt encore pour annoncer un rapprochement militaire avec Moscou. L'installation d'une base logistique russe en Libye, dans le désert libyen, mais non loin des frontières tchadiennes et soudanaises, alimente à nouveau les spéculations d'un éventuel rapprochement sécuritaire entre Moscou et N'Djamena, mais il est encore trop tôt pour l'affirmer.
Quelle est la principale menace sécuritaire perçue aujourd'hui par le gouvernement de N'Djamena ? Est-ce du côté du nord ou du côté du sud, du voisin soudanais ?
Eh bien, la principale menace sécuritaire, elle est sans doute du côté du voisin soudanais. On sait que le Soudan en guerre, l'une des parties en guerre, le camp de l'armée soudanaise du général Bourhan, accuse et a accusé à plusieurs reprises le Tchad de servir de base logistique pour livrer des armes à son ennemi, donc les RSF, et donc à plusieurs reprises affirmé qu'il ne laisserait pas passer cela et qu'il souhaitait en privé qu'il souhaite se venger contre cet appui tchadien. Et donc on se rappelle que en 2006 ou 2008 par exemple, des colonnes rebelles étaient parties du Soudan pour menacer N'Djamena, et donc c'est une menace qui pourrait se reproduire dans un futur plus ou moins proche, et c'est sans doute une des principales menaces que perçoit le régime tchadien.
Merci Charles Boissel. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. On l'a surnommée la voix de l'Égypte ou encore l'astre de l'Orient. Oum Kalsoum disparaissait il y a 50 ans, le 3 février 1975. Pour commémorer cet anniversaire, la Philharmonie de Paris organise jusqu'à dimanche soir 3 grands concerts autour de cet artiste qui reste adulé dans tout le monde arabe. Edmond Sadaka.
Oum Kalsoum, comme vous ne l'avez jamais entendu, c'était hier soir jeudi à la Philharmonie de Paris, et cet extrait d'une création inédite signée du trio Love and Revenge, il a revisité les chansons de la diva en version électro. L'organisateur de cette série de concerts, c'est Alain Weber, conseiller musique du monde de la Philharmonie. Il avoue avoir été surpris par la rapidité avec laquelle les billets se sont envolés, preuve de la popularité intacte de la diva égyptienne.
Je pense que beaucoup de gens qui achètent le billet ne connaissent pas vraiment sa musique, mais ils l'ont acheté parce que ils ont été touchés par ce mythe qu'on a envie un peu de découvrir.
Autre temps fort de cette série de concerts, la soirée de clôture dimanche, à l'affiche l'illustre orchestre de musique arabe de l'Opéra du Caire et l'occasion pour le public de réentendre quelques titres historiques comme Enta Omri.
C'est avec Oum Kalsoum que se referme cette demi-heure africaine, réalisée et préparée avec Laurent Corot, Michael Goncalves et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Non, à lundi. Nous sommes vendredi. À lundi, Nicolas Sûr.
Absolument.
Vous restez avec nous. On se retrouve dans 30 secondes, ça c'est certain, pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Deux autres options si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Une demi-heure d'information en full day. Ou bien en portugais si vous vous trouvez en Afrique lusophone. À tout de suite.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
En ce moment même se tient à Brest le festival Longueur d'onde, dédié à la radio et à l'écoute. RFI y est présent. Aussi, j'ai choisi de recevoir Christophe Deleu, spécialiste de ce qu'il appelle la belle radio, pour parler de documentaires sonores et de fiction radiophonique à l'ère du podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche à 11h10 TU sur RFI pour l'atelier des médias.